Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, c'est avec Jean-Luc Tavernier. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'INSEE. Vous avez publié la note de conjoncture trimestrielle de l'INSEE. C'était hier soir, note qui avait été mise au frigo en attendant la fin de la période de réserve et qui nous donne la dernière photo de l'économie française avant la dissolution. Cette photo, elle n'était pas si mal. Ok, c'était 1,1% de croissance, c'était pas la folie totale, mais quand même, l'économie française n'allait pas si mal.
Oui, 1%, en effet, comme vous dites, c'est pas la folie, hein, mais on est calé, en effet, sur du 0,2, 0,25% de croissance par trimestre, avec des climats conjoncturels dans les enquêtes qu'on fait auprès des entreprises qui sont à peu près à leur moyenne historique, donc c'est compatible avec ça. Donc ça, c'était la photo, au mois de juin, avec des indicateurs qu'on a mis à jour, mais on n'a pas encore de données d'enquête qui tiennent compte du nouveau contexte et de l'incertitude actuelle.
Alors, politique. On n'a pas de données d'enquête, mais nous, on a quand même des choses qui nous remontent sur ce plateau. On a la CPME qui dit, en 3 semaines, on a perdu un trimestre. On a Hellower qui nous dit j'ai perdu 10% de mes offres depuis la dissolution. Est-ce que ça va être un coup brutal, un arrêt de la croissance? Comment on peut anticiper?
Alors pour nous, c'est difficile à dire parce que, d'abord, encore une fois, après le Covid et puis la guerre en Ukraine, on a un choc qui est externe à l'économie qui arrive et dont il faut tenir compte. On va essayer de regarder les indicateurs haute fréquence qu'on appelle vraiment, par exemple, les embauches en CDI. Est-ce qu'elles sont affectées par l'incertitude qu'il peut y avoir sur le coût du travail au niveau du SMIC dans les mois à venir? C'est une possibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder avec attention. Mais après, l'autre guide qu'on a, c'est de regarder les précédents historiques, de voir ce qui se passe dans l'histoire. Et on n'a pas de précédent, en fait, de ce type d'incertitude à convoquer.
On ne peut rien comparer.
Non, si vous regardez la dissolution de 97, il y a un bon rebond de la confiance des ménages, en fait, post-dissolution.
Ouais.
Et puis ça arrivait en fait dans un climat conjoncturel qui était assez allant, même si on s'en rendait pas tellement compte à l'époque. Franchement, l'incertitude qu'on a aujourd'hui et le domaine des possibles en matière de politique économique, compte tenu des programmes qui ont été présentés, est, je crois, sans précédent.
Donc on peut pas anticiper. Ce qu'on sait quand même, qu'on parlera de l'inflation dans un instant, mais sur les questions d'emploi, la dégradation avait déjà commencé.
Oui. Pendant, il faut bien voir que sur l'emploi, pendant des années, des trimestres, des années, depuis en fait la sortie du Covid, on a plus d'emplois que ce qui était prévu. Le revers de la médaille, c'est qu'on a peu de productivité. On pourra peut-être en dire un mot. On a plus d'emplois que ce qui était prévu. On sait que l'emploi est revenu à son niveau avant Covid bien plus tôt que l'activité elle-même, que le PIB. Et à un moment, ça ralentit. Donc depuis quelques trimestres, on avait effectivement un ralentissement des créations d'emplois, le chômage stabilisé ou une légère remontée. Donc ça, c'était effectivement à 1% de croissance, c'est ce qu'on peut imaginer. C'est des créations d'emplois faibles. Comme il y a un peu de population active du fait notamment de la réforme des retraites, on anticipe une légère remontée du taux de chômage à horizon de la fin de l'année, qui passerait, il est aujourd'hui à 7,5, qui passerait à 7,6. Donc c'est bien un ralentissement et on bute un petit peu sur ce niveau de taux de chômage de 7, en dessous duquel on a eu du mal historiquement à baisser.
Sur la question de la productivité, il se passe quelque chose justement, c'est mécanique, petite hausse du chômage, hausse de la productivité ou non?
Non, pas du tout. Non, sur la productivité, alors nous, la semaine prochaine, on va essayer de sortir notre analyse de la perte de productivité. Par rapport au sentier de productivité pré-Covid, qui était déjà pas formidable, les gains de productivité ralentissent tendanciellement depuis 30-40 ans.
C'est pas le Covid, ça date de bien avant.
Il y a un ralentissement qui est un petit peu, et qui interroge, à mon avis, beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut réellement la croissance? Est-ce que toutes les mesures qu'on prend sont dirigées là-dessus? et puis on a eu aussi des faibles gains de productivité qu'on a appelé l'enrichissement de la croissance en emploi, qu'on a voulu quand on a modéré le coût du travail au niveau du SMIC. C'est pour faire revenir sur le marché du travail, dans l'emploi, des personnes non qualifiées qui avaient moins de productivité et qui étaient écartées du marché du travail par la barrière du SMIC. Donc elle était en partie, ces ralentissements de la productivité tendancielle, ils étaient en partie voulus, mais à mon avis ils disent autre chose de nos préférences collectives.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce COVID, que depuis... Keir Starmer, quand même, quand il est arrivé au pouvoir la semaine dernière, du côté de la Grande-Bretagne, la première chose qu'il a dit, c'est « je veux le retour de la croissance ». La France, elle, ne veut pas le retour de la croissance, ça n'intéresse pas.
Mais il faut bien voir que sans croissance, on a difficilement du pouvoir d'achat. Si vous prenez sur 15 ans depuis 2008 à 2023, vous avez 0,5% de PIB par habitant, de gain par an en moyenne de croissance du PIB par habitant sur 15 ans. Le gain de pouvoir d'achat par habitant, c'est 0,7%. Donc c'est à peu près la même chose, et ça se comprend, il n'y a pas de baguette magique, sauf à creuser le déficit public indéfiniment, sauf à imaginer que le partage de la valeur ajoutée se déforme en défaveur des entreprises indéfiniment. Vous avez en gros le pouvoir d'achat global, il réagit comme l'activité, et donc si vous n'avez pas de productivité, si vous augmentez pas l'emploi dans l'économie, vous n'aurez pas de pouvoir d'achat. Et je pense que c'est ça que traduit la phrase de
Keir Starmer.
Oui, bien sûr. Depuis le Covid, on a un problème supplémentaire par rapport à ce ralentissement de la productivité un peu tendancielle. C'est spécifiquement en France, on a encore perdu de la productivité par rapport à un sentier qui était déjà pas bien brillant. On est à 5 points de productivité en dessous du sentier qu'on aurait pu connaître avant Covid. Donc 5 points d'activité en moins, avec ce que ça veut dire de revenus distribués, avec ce que ça veut dire aussi de recettes de prélèvements, recettes fiscales, recettes de cotisations sociales, recettes de prélèvement obligatoire pour financer le modèle social. Donc c'est quelque chose de massif, cette perte de productivité de 5 points. Et il faut en parler, il faut effectivement adresser le sujet.
Vous dites qu'il faut en parler, on n'en a pas du tout parlé pendant la campagne, on n'a pas parlé du tout d'augmenter la productivité du pays, même d'augmenter la croissance pour que l'assiette et le gâteau soient plus gros. C'est même pas un sujet, en fait.
En effet, oui.
Oui.
En effet. Bon, mais moi, pendant la campagne, j'ai attendu l'INSEE, c'est devoir de réserve. Hein,
donc, non, j'ai bien compris, mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là n'a pas été.
Non, bien sûr, on n'a pas
du tout adressé.
Non, bien sûr, on n'a pas rappelé non plus que depuis quelques années, on a été plus souvent en problème de contraintes d'offres que de contraintes de demande. Des entreprises, contrairement aux décennies passées, où massivement elles disaient ce qui nous gêne pour produire davantage, c'est un manque de demande. Depuis le Covid, et même depuis avant le Covid, hein, puisqu'il y avait des difficultés de recrutement sur certaines professions. Dès 2019, on a des entreprises qui déclarent autant, voire parfois plus, des contraintes d'offres que des contraintes de demande. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé non plus.
Sur les questions de pouvoir d'achat, quand on regarde votre chiffre sur l'année 2024, si rien n'avait changé, on aurait été à 1,4% avec des salaires quand même qui progressent. Ce sujet des salaires, évidemment, il est sur la table. Sur cette question du pouvoir d'achat, on a des débats d'économistes qui n'en finissent pas. Le pouvoir d'achat des Français a été préservé ces dernières années.
Oui, globalement. Alors, je vous ai dit, sur 15 ans, je crois que c'est 0,7% le pouvoir d'achat par habitant. Dans le Covid, où on a eu des pertes d'activité, on sait que le quoi qu'il en coûte a permis de protéger le pouvoir d'achat des Français plutôt plus que dans la plupart des pays. Alors, on n'en a pas conscience, en effet, mais c'est vrai, plutôt plus. Et cette année, on s'attend effectivement à un gain de pouvoir d'achat, je crois que ça doit être de 0,9% sur l'année, quelque chose comme ça. Vous voyez, au premier trimestre, on a eu quand même 5 points de hausse des retraites en janvier.
Grâce à l'indexation sur l'inflation.
Voilà, l'inflation passée, pour une inflation qui, cette année, sera de 2%. Donc, les gains... je crois qu'on peut pas contester que les gains des retraités vont avoir des gains de pouvoir d'achat cette année, que globalement il y en aura. Les deux années précédentes, non. Hein. En 2022-2023, globalement, le pouvoir d'achat était étal, mais c'était l'effet de la crise en Ukraine, de la hausse des prix de l'énergie, et donc d'une inflation importée qu'il a bien fallu financer d'une manière ou d'une autre.
Vaut mieux être un retraité qu'un actif. On en reparlera demain avec Antoine Fouché, qui sera à votre place le patron de Quintet. Un mot de l'inflation. L'inflation, c'est terminé, clairement. Si on regarde les chiffres, là, on devait passer sous les 2% en 2024, c'est un vieux souvenir quand on en est à ce
niveau-là. C'est ça. Oui, nous, on l'a dit déjà depuis un moment, hein, quand on a vu que les services ne s'emballaient pas et que, effectivement, les prix alimentaires, bon, ils ne baissent pas, mais il n'y a plus d'inflation dans les prix alimentaires. C'est qu'il n'y avait pas de risque de boucle prix-salaire. On l'a dit il y a assez longtemps. Et effectivement, ça suit un petit peu le scénario qu'on avait prévu. On est autour de 2%. Il y aura peut-être un petit blip à l'été avec les Jeux Olympiques parce qu'il y a un peu de prix qui vont monter, mais globalement on restera autour de 2%, voire un peu en dessous, et à la fin de l'année décembre, je crois qu'on prévoit 1,9% de hausse des prix. Voilà, donc on est pour la France dans la cible qui est celle de la Banque Centrale Européenne.
Comment vous allez travailler pour faire des scénarios dans les semaines qui viennent si on n'a pas de gouvernement? Comment on bosse?
Alors, vous savez, je vous disais tout à l'heure, on a pris l'habitude de s'adapter à une conjoncture qui nous a pas épargné ces dernières années. Hein, encore une fois, avec des chocs qui sont pas des chocs économiques. Donc, on va faire ce qu'on a pris l'habitude de faire, c'est-à-dire de regarder un peu les indicateurs instantanés qu'on peut avoir. Donc, sur les décisions des entreprises, est-ce qu'on voit des choses sur au jour le jour, peut-être pas, mais enfin à la semaine sur les embauches en CDI, oui, notamment. Et sur les décisions d'investissement, c'est plus difficile d'avoir des indicateurs qui soient instantanés et qui puissent réagir. On a nos enquêtes, on a aussi celle de la Banque de France, hein, qui travaille très bien, qui vont sortir peut-être avant les nôtres. Nous, les nôtres, c'est 25, 26 ou 27 juillet. On aura les enquêtes qui seront collectées après les élections législatives. Donc on verra ce que répondent à la fois les entreprises et les ménages. Et puis les décisions de politique économique, on essaiera d'en tenir compte quand elles seront définies, oui.
C'est compliqué. C'est ça que vous voulez nous dire. Merci beaucoup.
Vous imaginez, c'est pas plus simple pour moi que pour tout le monde.
Oui, c'est plus facile d'être journaliste que d'être statisticien à l'INSEE. Je vous le fais pas dire. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.